2 Pierre, donc, chapitre 1, versets 1 à 11. Et nous prendrons quelques dimanches cet été pour parcourir cette brève épître. Je lis donc à partir du verset 1. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Jusqu'ici la lecture de la parole. Le 9 novembre 1989, c'était la chute du mur de Berlin, une de ces dates qui ont marqué l'histoire moderne. J'étais, je crois, en sixième et je m'en souviens vaguement. Ce jour-là, des gens qui avaient été séparés pendant des décennies se sont retrouvés. Le mur avait été érigé en 1961, donc presque 30 ans auparavant, et puis le pays, l'Allemagne, était divisée en deux depuis plus longtemps que cela encore, depuis plus de 40 ans. Et d'un seul coup, tout a changé. Et ce dont des millions de personnes rêvaient depuis des décennies est devenu du jour au lendemain une réalité. Et on a entendu ce commentaire de la part de beaucoup de personnes de l'époque qui disaient « Je n'aurais jamais cru voir cela de mon vivant. » Tout a changé. En écrivant les lignes que j'ai lues tout à l'heure, l'apôtre Pierre, qui s'adresse à des chrétiens en Asie mineure, ce qui correspond géographiquement à la Turquie moderne, en écrivant ces lignes, l'apôtre Pierre veut que ces chrétiens, ces communautés d'Asie mineure, comprennent combien tout a changé pour ceux et celles qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Il veut leur transmettre un sentiment un peu analogue, mais à dimension bien plus grande encore, que ceux qui ont vécu, ceux qui ont connu la chute du mur de Berlin. Il veut que ces chrétiens comprennent quelque chose d'unique, qu'ils vivent quelque chose d'unique, quelque chose dont la dimension est bien plus considérable que les plus grands événements de l'histoire des hommes. Une véritable nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Et même, et ça a déjà été dit un peu plus tôt dans ce culte, une nouvelle ère dans l'histoire de la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les hommes. La venue de Jésus-Christ dans le monde, sa vie et son ministère, sa mort sur la croix, sa résurrection, tout cela sont des actes de Dieu dans l'histoire des hommes, des interventions décisives par lesquelles il est venu écrire une nouvelle histoire de l'humanité, fondée sur son pardon, fondée sur une relation nouvelle, vivante, personnelle avec lui. Pierre écrit cette seconde lettre alors qu'il est à la fin de sa vie, le dit un peu plus loin, explicitement. Il sait que son heure est proche. Et beaucoup de commentateurs estiment que cette lettre est donc en quelque sorte son testament. Et il veut que ses lecteurs comprennent bien que s'ils sont venus à la foi en Jésus, encore une fois, rien ne sera comme avant. Dans le texte que nous avons lu, une idée centrale ressort, une synthèse en quelque sorte, et on pourrait résumer cela par la phrase suivante. Vous avez tout reçu, donc vous pouvez tout donner. Vous avez tout reçu, donc vous pouvez tout donner. Alors je vais essayer d'expliquer ce que nous pouvons entendre par là à la lumière du texte, et je vous propose de le faire en deux temps. Nous avons tout reçu, nous pouvons tout donner. Nous avons tout reçu d'abord. La grâce, ce qui peut se vivre à petite échelle ou à très grande échelle, la grâce, ce sont ces faveurs imméritées et qui surpassent nos espérances. Je l'ai dit, on peut la vivre parfois à petite échelle dans nos expériences du quotidien, cette grâce. Je me rappelle par exemple, alors j'ai déjà raconté cette anecdote, donc pardonnez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis retrouvé dans une ville où je ne connaissais à peu près personne, sinon des amis de mes parents, mais que moi-même je ne connaissais que peu. Et suite à un aléa de calendrier, et alors que j'étais étudiant sans le sou, plus ou moins, je ne savais pas où passer la nuit, alors que je devais prendre un avion très tôt le lendemain matin. Et donc je me suis risqué à appeler ces gens que je ne connaissais pas très bien, qui étaient des amis de longue date de mes parents, en tremblant un peu, en leur demandant si par hasard, alors que c'était un peu à la dernière minute, si par hasard je pourrais venir chez eux et passer quelques heures à dormir sur leur canapé, puis prendre tôt le lendemain matin un taxi pour aller à l'aéroport. Et bien, non seulement ces amis m'ont accueilli les bras ouverts, mais ils m'ont donné bien au-delà de ce que je pouvais espérer. Un repas, une chambre d'amis confortable, un petit déjeuner, et puis ils m'ont même amené à l'aéroport. Une petite chose, mais je me souviens m'être dit, c'est ça la grâce. Cette bonté qui surabonde, cette belle surprise qui change la donne quand on ne s'y attend pas, quand on ne la mérite pas. Mais bien sûr, c'est ce que Dieu fait pour nous à immensément plus grande échelle. Et Pierre veut que ses lecteurs saisissent bien la grâce, la faveur surabondante qui leur a été accordée en Jésus-Christ et l'ampleur du privilège que ça représente. À la fin de sa salutation, au début du texte, au verset 2, il exprime déjà son vœu confiant que la grâce et la paix soient multipliées pour ses lecteurs. Et ce n'est pas qu'une simple formule pour lui. Or, quelle est la source de cette grâce et de cette paix, de cette nouvelle manière de vivre? La réponse est à la fin du même verset 2, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pierre rappelle à ses lecteurs qu'en confiant leur vie à Jésus-Christ, ils ont été invités à vivre une relation intime, personnelle avec le Créateur. Ils sont invités à connaître Dieu. Or, cette connaissance de Dieu pour Pierre, c'est comme une porte ouverte vers une vie transformée, dans laquelle nous avons tout reçu, tout ce qu'il y a d'essentiel. Connaître Dieu, voilà ce qu'il y a de plus essentiel, et c'est précisément ce qui nous est offert. Regardons le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Autrement dit, Dieu nous a parfaitement équipés pour vivre la vie qu'il nous appelle à vivre. Parfaitement équipés. Il ne nous manque rien. Et c'est intéressant de voir que Pierre parle au passé. Plus loin dans sa lettre, il évoquera l'avenir magnifique que Dieu garde en réserve pour tous ceux et celles qui sont venus à la foi en Jésus-Christ, tous ceux et celles qui ont été appelés pour être son peuple. Mais ici, il parle de ce qui s'est déjà passé pour ceux et celles qui ont confié leur vie à Christ. Si nous avons cru en Jésus, Dieu nous a donné avec puissance tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous le croyons? Alors bien sûr, Pierre ne conteste pas ici que nous avons divers besoins au quotidien et que certains d'entre eux ne sont pas pleinement satisfaits. La Bible est très claire sur le fait que dans la vie présente, nous connaissons encore des souffrances, des frustrations, des déceptions. Nous sommes limités de bien des manières. Et Pierre d'ailleurs en parle largement dans sa première lettre, de l'épreuve, de la souffrance. Mais ici, il veut que ses lecteurs comprennent que Dieu leur a déjà donné ce qu'il y a de plus important. L'essentiel, ils l'ont déjà reçu. Verset 3, nous avons reçu ce qu'il y a de plus important. Dieu nous l'a fait connaître en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Voilà le privilège suprême qui nous est réservé. Dieu nous a fait connaître celui qui nous a appelés Jésus-Christ, par sa propre gloire et par sa propre force. On note au passage et dans l'ensemble de ce texte les attributs divins attribués sans hésiter à Jésus-Christ. Et Pierre poursuit dans la même veine au verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. À la fin du même verset 4, il va jusqu'à dire que ces promesses tellement grandes, tellement précieuses, nous permettent de devenir participants de la nature divine, verset 4. Alors là, certains peuvent trouver ça étonnant. Ils peuvent se demander si Pierre pousse quand même le bouchon un peu loin. Participants à la nature divine. Et il faut reconnaître que cette expression a fait couler pas mal d'encre et a donné lieu à pas mal d'interprétations assez regrettables. Mais le mot traduit ici par participant peut avoir le sens d'associé, de personnes qui sont en communion avec. Et dans le contexte, c'est clairement le sens qui convient. Pierre ne dit pas que les chrétiens sont en quelque sorte divinisés. Ça serait aller à l'encontre de tout ce que dit la Bible par ailleurs. Il y a une distinction essentielle entre le créateur et la créature. Mais comme l'écrivent par ailleurs l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, il affirme qu'en entrant dans cette relation avec Dieu, nous sommes comme introduits dans l'intimité de Dieu. Nous entrons en communion avec le divin, avec Dieu lui-même. Est-ce qu'on saisit bien la force de cette promesse, de cette affirmation? Si un jour vous vous présentez au palais de l'Élysée, vous vous présentez aux gardes et vous dites « Excusez-moi, j'aimerais bien discuter quelques minutes avec le président de la République, est-ce que vous pourriez m'amener pour que je puisse le voir ?» Je ne veux pas vous faire de peine, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. On vous dira sans doute en rigolant de passer votre chemin, ou bien peut-être en ces temps d'état d'urgence, on vous mettra en garde à vue. Mais en tout cas, on ne se présente pas comme ça pour voir le président. Voilà. Et d'un point de vue général, les gens qui ont du pouvoir, les gens célèbres, on n'a pas accès à eux comme ça. Pierre nous dit ici que par Jésus-Christ, nous avons une invitation permanente, éternelle même, à la présence de Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut imaginer un privilège plus grand? Maintenant, pourquoi est-ce que Pierre insiste sur cela ici? Eh bien, d'une part, parce qu'il est émerveillé par ce que Dieu fait. Que ce soit dans sa première, dans sa seconde lettre, on sent l'émotion. Pierre, c'était un émotif, comme on voit un peu dans les évangiles, sa personnalité et dans ses lettres. Il est émerveillé par ce que Dieu a fait, il veut transmettre quelque chose de cette émotion. Mais aussi, et plus précisément, parce que comme nous le verrons, Dieu voulant au chapitre 2, de prétendus prophètes, comme il les appelle, se sont immiscés dans les églises. Et colporte de fausses doctrines. Et souvent, il y avait, et Pierre le dit d'ailleurs, l'idée que ces faux prophètes venaient avec l'idée qu'il fallait de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations, quelque chose de nouveau dans la relation avec Dieu, en plus de ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Or, Pierre veut que ses lecteurs comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'affût de nouvelles expériences, de nouvelles révélations, parce qu'ils ont déjà reçu l'essentiel. Jésus-Christ les invite à entrer dans l'intimité de Dieu, à être liés au Créateur pour toujours, à vivre une vie transformée par sa grâce. Et nous voudrions plus encore que cela? C'est un message qui est très pertinent pour nous aujourd'hui. D'abord parce que le monde nous propose 10 000 ambitions autres que la connaissance de Jésus-Christ. Des ambitions qui souvent sont assez attrayantes. Ambitions professionnelles, financières, sociales, familiales, sportives même. Toutes ne sont pas mauvaises en soi. Mais souvent, derrière un visage attrayant, se cache, comme Pierre l'écrit à la fin du verset 4, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Des idoles, ou parfois des choses bonnes en soi, mais dont nous avons fait des idoles, qui suscitent la convoitise, mais qui ne pourront jamais satisfaire. Et Pierre veut que nous comprenions que nous avons reçu quelque chose d'infiniment plus précieux que tous ces faux-semblants. Mais ce texte est pertinent pour nous aussi parce que même dans les églises se diffuse parfois cette idée qu'il faut sans cesse être à l'affût de nouvelles expériences, de nouvelles révélations en tout genre. Or, Pierre le martèle à 3 reprises dans ce texte. Ce qui compte, ce qui est essentiel pour la vie avec Dieu, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Verset 2, verset 3, verset 8. Dieu nous a fait la grâce de connaître son Fils, celui qui nous a donné comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce qui doit retenir notre attention. Voilà ce qui doit combler notre cœur. Et nous allons voir maintenant que pour Pierre, cette grâce illimitée que nous recevons, par laquelle Dieu nous comble, ce n'est pas une excuse pour l'inaction, ce n'est pas une excuse pour la paresse spirituelle, mais bien au contraire, elle doit nous mobiliser pour une vie transformée. Nous avons tout reçu, et donc, nous pouvons tout donner. C'est notre deuxième point. Dans son premier discours, alors qu'il venait d'accéder au pouvoir au Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill a eu cette très célèbre phrase « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. » Je ne sais pas ce que nos communicants, nos spécialistes modernes de la communication diraient à propos de ce slogan, ce serait intéressant. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui on dirait que c'est démoralisant, contre-productif, déprimant, démobilisant, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on entend rarement aujourd'hui des personnalités politiques nous promettre du labeur, de la sueur, du sang et des larmes. Et pourtant, on se souvient de ce discours comme l'un des plus importants et l'un des plus marquants du XXe siècle. Alors comment expliquer qu'un discours en apparence aussi dur a pu autant frapper les esprits et galvaniser un peuple entier dans la résistance? Je pense que la réponse, c'est que l'homme est prêt à souffrir s'il est convaincu que cette souffrance est nécessaire pour atteindre un bien supérieur. Pour les Britanniques, capituler face aux nazis, c'était pire que de souffrir en défendant leur pays. C'est ce qui a fait leur honneur pendant la guerre. Et par conséquent, cette fameuse phrase de Churchill n'a pas été démoralisante, mais plutôt a permis une conscience de la gravité de l'enjeu, du fait qu'il fallait tout donner pour parvenir au bien souhaité. Au verset 5 de notre texte, il y a une transition qui peut surprendre. Pierre vient de souligner qu'en Jésus, nous avons tout reçu. On vient de le voir, il le dit avec force, nous avons tout reçu. Alors on pourrait penser qu'il suffirait de baigner tranquillement, paisiblement dans une telle bénédiction, ou comme j'ai entendu une fois dans un message ici, surfer sur la vague de sa grâce, simplement profiter de ce que Dieu nous a offert. Et pourtant, à partir du verset 5, il est question d'efforts, de durs efforts. Or, Pierre fait précisément le lien entre la grâce reçue et les efforts demandés. Verset 5, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Tout un programme. Tout un programme. Pierre invite ses lecteurs à tout donner, au sens de réorienter entièrement leur vie pour cultiver avec effort des qualités nouvelles. Alors on n'aime pas forcément entendre ce genre de choses aujourd'hui. Mettez tous vos efforts à cultiver toutes ces qualités, peut-être surtout de notre temps. Et comment comprendre qu'il faille faire des efforts dans notre relation avec Dieu ? Alors que Pierre vient de nous dire que nous avons tout reçu. Mais la clé pour comprendre cela, la réponse, elle est au verset 8. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on prend conscience de quelque chose de fondamental. La connaissance de Jésus, ce n'est pas un état fixe. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Point final. La connaissance de Jésus, ça se cultive, ça se travaille. Si nos relations humaines les plus proches se travaillent, on le sait par expérience, à combien plus forte raison la relation avec le Dieu vivant. Pour connaître Jésus, or connaître Jésus, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Connaître Jésus, ce n'est pas juste savoir qui est Jésus. La confusion entre savoir qui est quelqu'un et connaître quelqu'un, elle n'a peut-être jamais été aussi grande à l'heure des réseaux sociaux. On peut penser qu'on connaît quelqu'un parce qu'on a plein d'informations sur lui. On voit ses photos, on connaît son opinion sur à peu près tout, etc. Mais en fait, on n'a aucune relation avec cette personne, souvent. Eh bien, ce n'est pas connaître quelqu'un. Et de même, on peut penser que la vie chrétienne, c'est le fait d'adhérer à Jésus. C'est le fait d'approuver de loin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître Jésus de loin. peux pas le connaître véritablement non plus sans être transformé. On ne peut pas connaître Jésus sans être transformé par cette relation. Entrer dans une véritable relation avec lui, c'est entrer dans un processus qui va profondément changer notre regard sur le monde et la vie, qui va réaligner nos priorités, qui va bouleverser notre vie. Et c'est ce que Pierre souligne ici. Connaître Jésus, entrer dans cette dynamique relationnelle de connaître Jésus, ça demande des efforts. Et on note que les qualités que Pierre évoque au verset 5 à 7 ne sont pas spectaculaires. Ce sont des qualités qui prennent forme avec le temps, qui demandent justement de l'endurance, du travail. Et ce sont des qualités qui témoignent, chacune à leur manière, d'une intimité grandissante avec Jésus-Christ, lui qui les a parfaitement incarnées. Plusieurs commentateurs soulignent que dans sa manière de formuler les choses, Pierre sous-entend une sorte de cercle vertueux, un processus par lequel chaque qualité nourrit la suivante. Plus on a de foi, plus ça s'exprimera par des qualités morales qui à son tour donneront lieu à de la connaissance, qui elle-même suscitera la maîtrise de soi, etc. Donc Dieu ne nous donne pas une liste écrasante de choses à faire pour pouvoir lui plaire. Ce serait aller à l'encontre de l'évangile de la grâce. Mais il nous invite à entrer dans une dynamique, à réorienter notre vie pour chercher à le connaître de mieux en mieux. Et ça, ça demande des efforts. On sait par expérience que quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à la manière de vivre et de penser de cette personne. Et si c'est quelqu'un de vraiment proche, on sera soi-même influencé et changé par les valeurs, les centres d'intérêt, les goûts de cette personne. Et bien quand on aime Jésus, on se laisse changer par ses valeurs. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien Pierre nous dit au verset 9, c'est peut-être qu'on a oublié ce qu'il a fait pour nous. Les mots sont sévères. Celui qui ne possède pas ses qualités est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Il vit comme si il avait tout oublié. Mais Pierre n'écrit pas ces lignes pour que nous soyons découragés. Encore une fois, rappelons que pour lui, il ne s'agit pas d'une checklist, comme on dirait, écrasante de choses à faire, mais de moyens de mieux connaître Jésus. Et ça devrait profondément nous enthousiasmer et nous réjouir de mieux connaître Jésus et de cultiver ces qualités par lesquelles nous le connaîtrons de mieux en mieux. Un jeune homme fou amoureux sera heureux de faire de grands efforts pour sa fiancée. S'il faut faire des kilomètres, s'il faut passer des heures au téléphone, s'il faut aller à un spectacle de danse classique, il le fera avec joie parce que sa relation avec sa fiancée, elle lui est profondément précieuse. Il aura sans doute plus de mal à faire ces mêmes efforts pour une vague connaissance. Donc la question clé, ce n'est pas de savoir quels efforts nous sommes prêts à fournir. L'expérience montre que nous sommes prêts à fournir des efforts considérables lorsque nous valorisons profondément quelque chose. La question clé, c'est plutôt la valeur que nous accordons à notre relation avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que si en écoutant ce texte, vous vous sentez remis en question par la parole de Dieu, comme je l'ai été en préparant ce message. Le premier réflexe n'est pas de se dire « Ouh là là, il va falloir que je trouve en moi plus de foi, plus de qualité morale, plus de persévérance. » Ça, c'est la voie de l'échec assuré. La première question que je dois me poser est la suivante. Est-ce que je désire vraiment mieux connaître Jésus-Christ? Et s'il y avait des doutes sur ce qui était en jeu, Pierre le rappelle, versets 10 et 11, en bouclant la boucle en quelque sorte avec le début du texte, il rappelle l'incroyable privilège du disciple de Jésus. Il a été appelé et choisi, verset 10. Ce qui lui est promis, c'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, verset 11. En ce jour où cette vie nouvelle qui a déjà commencé, elle trouvera son plein accomplissement dans un monde entièrement renouvelé, définitivement réconcilié avec Dieu. Ainsi, faire des efforts pour vivre autrement, ce n'est pas s'épuiser par stoïcisme ou par devoir religieux, mais c'est affermir, comme Pierre le dit, l'appel et le choix dont nous avons été l'objet. C'est précisément parce que nous avons été trouvés par la grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part, que dans le cadre de cette grâce qui nous comble, qui surabonde, nous pouvons trouver les ressources pour faire tous ces efforts, pour rechercher ces qualités. Une suggestion peut-être serait de relire ce texte dans la semaine et de prier que le Seigneur nous donne de cultiver ces qualités, peut-être de les prendre une à une, de demander à Dieu plus de foi, de lui demander plus de persévérance, plus de qualité morale, plus de maîtrise de soi. Nous avons tout reçu. Nous pouvons donc tout donner. Amen.